Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous parle de trois trucs cool en 20 minutes, je m'y perds, mais je me retrouve toujours. Je suis Patrick Béja et dans cette émission, on vous parle de BD, de films, de séries, de romans, de musique, etc., etc. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, pour vous recommander trois trucs qui sont plutôt cool pour animer votre week-end de début mars, pour vous abriter des giboulées et avoir quand même des choses à faire à la veille de la sortie de la Nintendo Switch que vous avez certainement tous pas précommandé. je reçois, comme les épisodes précédents, Jean et Guillaume qui se joignent à moi. Comment allez-vous, messieurs ?
Bien, salut, bien. Jean.
Salut Patrick. Guillaume.
Ça va très bien, Patrick, merci.
Très bien, très bien. Oui, pardon.
Je vais garder mes sous aussi.
Oui, pour toi, bon. Ouais. En même temps, disons que peut-être que on enregistre un tout petit peu à la. Oula, pardon. On enregistre un tout petit peu à l'avance. Peut-être que quelques semaines avant le lancement, il y a eu des nouveautés qui t'auront convaincu de te lancer sur la Nintendo Switch, Jean, non ? Toi qui aimes
oui,
jouer avec tes enfants.
Peut-être, Patrick, oui. Peut-être, oui.
D'accord, on voit que tu ne débordes pas d'enthousiasme. Eh bien, écoute, je vais te proposer quelque chose qui va très certainement t'enthousiasmer beaucoup plus que la Nintendo Switch, parce que c'est une série documentaire de qualité qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle Hip Hop Evolution. Est-ce que tu peux imaginer de quoi ça parle ?
C'est une suite de Dance Dance Revolution.
Presque. En fait, c'est une série documentaire en 4 épisodes. Je crois qu'il existe sous différents formats. Il a été publié pour la première fois en avril de l'année dernière, mais il est disponible sur Netflix depuis l'automne 2016, si je ne m'abuse. Et c'est une série de 4 documentaires qui essayent d'aller au début du hip-hop et du rap. Et c'est une série qui est un petit peu différente de ce que j'ai déjà vu dans le domaine, parce que je pense que des documentaires sur la musique, il y en a plein et on en entend souvent. Disons que si on va parler de rap, je crois qu'il y a énormément d'entre nous qui vont tout de suite penser au début du rap, je dis commercial, pas dans le mauvais sens du terme, mais du rap à succès. On va dire, on va commencer à penser à, je sais pas moi, des gens comme Public Enemy ou NWA ou ce genre de groupe. Et en fait, là, on a bien sûr, on va parler de ces groupes-là dans cette série, mais on va aller encore plus loin, vraiment, au début, à l'origine des débuts du rap. D'où viennent les MC? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que ça s'appelle breakdance et pas juste on va aller vous dire alors pourquoi est-ce que le rap, le break, enfin la danse s'appelait le breakdance? Vous savez parce que on avait ceci et cela. Non, ils vous expliquent d'où c'est venu, comment ça a évolué, et ils disent et c'est pour ça que on appelle les breakdancers les breakdancers, c'est parce que ils utilisaient je vais pas vous le spoiler, mais on remonte vraiment au tout début, c'est-à-dire que on parle de la réaction des communautés noires afro-américaines new-yorkaises au disco, par exemple. C'était de là que ça venait à l'origine. On parle de DJ Kool Herc qui a débuté tout ça. Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash, bien sûr. Mais vraiment, on va aux sources, on remonte vraiment aux sources du hip-hop l'animateur parle à tous ces gens-là qui étaient aux origines. Donc, si comme moi vous appréciez le rap depuis, là on parle vraiment d'un rap, d'un hip-hop qui était underground, quoi. C'était les soirées cool de New York, mais enfin à moins d'y habiter et a priori d'être dans cette underground-là, on l'a pas vraiment connu. Mais moi qui en ai apprécié les conséquences, c'était un vrai plaisir et une vraie édification d'aller découvrir d'où ça venait, parce que j'en connaissais quelques éléments, je voyais un petit peu la période, mais là c'est pardon, excusez-moi, là c'est vraiment une mise en situation de tout ça. Donc c'est une série qui est disponible sur Netflix, je sais plus si je l'ai précisé. Je dirais que c'est pour les fans quand même, parce que si vous n'avez rien à faire du rap, ça sera peut-être pas... C'est pas qu'il y a beaucoup de rap dans le truc, il n'y a pas énormément de musique, mais bon, si c'est un truc qui vous intéresse pas, l'origine du truc vous intéressera pas forcément. Mais je pense que si vous avez déjà écouté un petit peu de rap dans votre vie, ça pourra vous intriguer et vous apprendre des trucs également. Donc ça s'appelle Hip Hop Evolution, c'est en 4 épisodes de 40 ou 50 minutes sur Netflix et je vous le recommande chaleureusement.
En parlant de Netflix justement, est-ce que ça fait un bon complément à The Get Down ?
Eh ben écoute, moi j'avais vu le premier épisode de The Get Down, donc la série de Baz Luhrmann, c'est ça ? Et j'avais pas vraiment apprécié. En fait, j'avais trouvé ça trop confus, trop comment dire. Je trouvais que je voyais pas où il voulait aller, où il voulait y arriver. Et en voyant Hip Hop Evolution, je comprends qu'il a voulu faire en fait une sorte de dépiction artistique de ce qu'était cette époque. Et c'est une sorte de dépiction artistique fantasmée, et je vois d'où il vient. Donc, j'ai pas vu la série entière The Get Down, mais je peux imaginer qu'effectivement, si ça vous a plu, vous voudrez peut-être aller voir qu'est-ce que c'était dans la réalité. Et je pense même, j'irais même jusqu'à dire que j'imagine que Netflix a mis les deux en ligne en complément l'un de l'autre, quoi, parce qu'ils se sont dit voilà, ça fonctionne, peut-être que l'autre fonctionnera aussi parce que les gens sont intéressés, quoi.
Mais du coup, maintenant que t'as vu le docu, est-ce que ça te donne envie d'aller voir la suite de Get Down, maintenant que t'as un œil neuf sur le truc?
Pas vraiment, en fait. Je me suis fait chier avec le premier épisode de Get Down, j'avoue. Donc, donc non, c'est pas vraiment mon truc. Donc voilà, Hip Hop Evolution sur Netflix, c'est un documentaire plutôt pour les fans. Jean.
Alors, Patrick, je vais vous parler de La Tortue Rouge. La Tortue Rouge, qui est un film d'animation qui est sorti en 2016. Un film d'animation de Michael Dudok DeWitt, qui a remporté le prix spécial un certain regard lors du dernier festival de Cannes.
C'est généralement pas une bonne nouvelle, ça, pour moi.
Justement, pour contrebalancer ça, il faut savoir que c'est un film qui a été réalisé en collaboration avec les studios Ghibli. Et c'est les studios Ghibli, en la personne de Isao Takahata.
Là, tu m'intéresses plus, déjà.
qui ont contacté DeWitt pour lui proposer la collaboration.
Takahata, c'est le tombeau des Lucioles, non ?
Ouais, c'est ça, ouais.
D'accord.
Ouais. Ce qui ne s'est jamais fait chez Ghibli, hein. Ils vont encore jamais à l'étranger et encore moins démarcher à l'étranger. Donc ça, déjà, ça intrigue. Donc, La Tortue Rouge, en fait, c'est l'histoire d'un naufragé. Donc ça commence sur la mer donc on a un homme en pleine mer, c'est la tempête, il peine à rejoindre sa barque qui s'est retournée, etc. Et donc il échoue sur une île comme n'importe quelle histoire de naufragé. Et il va très vite essayer de foutre le camp. Il va essayer de se construire un radeau. Donc, il va se rendre compte qu'il est sur une toute petite île en plein milieu de nulle part. Et donc, il va se construire un radeau et il va essayer de s'en aller. Et son radeau ne va pas tenir le choc. Il va en construire un, deux, trois. Et il n'y arrive toujours pas. Et il va rencontrer une tortue rouge. Pour des raisons que je n'expliquerai pas, il a un petit peu la haine contre cette tortue rouge et donc il va un petit peu se lâcher dessus. Du coup, cette tortue, elle va prendre la forme d'une femme. Et à partir de là, on va suivre sans vraiment que ce soit fait de manière hyper visible. On va suivre le point de vue de cette tortue qui va faire état de toutes les étapes de la vie d'un homme, de l'enfance à la mort. Alors pas forcément dans cet ordre-là, mais par l'organisation de la vie de ce naufragé, par les relations qu'il va pouvoir tisser avec cette femme apparue de nulle part. On va comme ça avoir un film qui est mais vraiment superbement animé. Donc les animateurs derrière ça ont fait comme ce que fait Makoto Shinkai, les animateurs de Makoto Shinkai et Makoto Shinkai lui-même, c'est-à-dire filmer des vrais gens et redessiner les mouvements pour qu'ils soient plus réalistes. Mais je ne parle pas de rotoscopie. Donc la rotoscopie, c'est ce procédé qui consiste à redessiner par-dessus. Là, ils ont le modèle film et ils vont redessiner à part, ils vont recopier quoi, le mouvement pour avoir un certain réalisme sans avoir cette patte rotoscopie qu'on sent tout de suite quand elle est là. Au niveau de l'esthétique, on voit qu'il y a clairement des influences belges, françaises et belges. Quand on voit les personnages en gros plan, on se demande même si on n'est pas en train de regarder Tintin. C'est franchement pas gênant parce que ça bouge magnifiquement. Ce sont des paysages de rêve. Alors, pas tout le temps, parce que des fois il arrive des choses pas drôles, et dans ce cas-là, c'est le gris qui domine, c'est le désespoir, c'est voilà. Mais il y a une poésie. C'est un film aussi, c'est un film muet. Alors, pas vraiment muet, puisque des fois, quand il est pas content, il fait ah, il crie. Mais à part ça,
comment il fait, tu peux répéter, j'ai pas bien entendu. Voilà. Ok, d'accord.
Okay. à part ça, il y a que les sons de la nature, le bruit des vagues, le bruit des oiseaux et une musique sublime composée par Laurent Pérez Del Mar. Alors, je vais passer un extrait et après on va voir si tu penses à la même personne que moi en termes de référence. Hop.
Ah, là, on n'entend rien du coup.
D'accord. Là, tu entends là ?
Ouais. C'est un peu fort. Mais...
Alors, est-ce que ça te fait penser à quelque chose ?
Pas vraiment.
Alors moi je trouvais qu'il y avait beaucoup beaucoup de consonances de Austin Wintory, donc celui qui a fait la BO de Journey et de Abzu, et je trouve que c'est pas mal référencé là-dedans. Alors je sais pas si c'est une vraie référence ou pas, mais du coup la musique elle prend vraiment part au film, et Pérez Del Mar en fait s'est vraiment impliqué dans le film, parce que il ne s'est pas contenté de mettre la musique là où on lui a dit de la mettre.
Il l'a mis à d'autres moments, genre quand voilà. Ça lui plaisait.
Ben oui, et alors il a respecté du Doug DeWitt quand il lui a dit alors là il faut surtout pas de musique, là il faut entendre les bruits de la nature et que les bruits de la nature, mais en dehors de ça, il a placé des morceaux de musique là où du Doug DeWitt s'y attendait pas, et du coup il a été agréablement surpris parce que ça produisait quelque chose, et en fait la musique agit quasiment comme un personnage, et c'est vrai que ce film là sans la musique tu perds 50% du film, voire même peut-être plus, parce que il y a vraiment des vraies émotions, et c'est un film à émotion, c'est un film à contemplation, c'est un film à émotion. Et, mais vraiment de tout. C'est la douceur, c'est la vie, c'est l'espoir, c'est la tristesse, c'est la mort, c'est la destruction. Et c'est, voilà, c'est juste magique. Ça dure pas très longtemps, ça dure 1h17. Faudrait pas que ça dure plus longtemps parce que ça commencerait à devenir long. Mais on se laisse porter du début jusqu'à la fin. Alors un peu comme Guillaume, tu l'évoquais sur Interstellar, sur ce voyage et sur les moments où on est vraiment en contemplation et voilà, on se laisse vraiment porter. Sauf que là, on se laisse porter quasiment pendant toute la durée du film. Et on en ressort. Alors tu sais, c'est moi je le classe dans ce genre de film où on n'en ressort pas exactement pareil qu'avant avant d'aller le voir.
Est-ce bonne que manière, c'est déprimant voilà. Parce que là j'ai un peu l'impression que
non, ça, j'ai peur d'avoir le cafard si je
ouais. Non. Alors non, même si pour la petite anecdote, j'ai regardé la première partie avec ma fille et donc le moment où il est pas tendre avec la tortue avant qu'elle se transforme. Du coup, ma fille, genre une demi-heure après, quand on n'était plus devant, je lui dis, je la regarde, je fais, ça va? Et là, elle commence à fondre en larmes et elle fait, mais qu'est-ce que t'as? C'est la tortue! Et voilà, bon. À part ça.
C'était des années de psychanalyse voilà, avec les tortues. C'est ça, complètement épique, c'est beau.
Bravo. À part ça, parce que je te dis, c'est on suit les étapes, donc vie et mort. Et même quand on voit la mort, parce que c'est la mort apaisée, tu vois, c'est pas, ah zut, je suis mort et il me restait tant de choses à faire. C'est voilà, je suis mort à mon heure et la vie continue.
T'as pas vraiment répondu à la question. Est-ce que c'est déprimant?
Mais non, parce que tu déprimes. Enfin, quand tu déprimes, t'es triste.
J'ai l'impression que c'est un non.
Parce que
mais
ça devrait pas t'arriver. Non.
Si, c'est un non mais.
tu déprimes. Bah oui, c'est pour ça que je rigole. Mais tu déprimes. Quand tu déprimes, c'est parce que t'es triste. Là, la mort arrive, mais elle arrive à son heure. Et donc, tu sais que c'est comme ça et c'est pas grave parce que c'est la vie et ça continue. Et tu as toujours ce paysage magnifique, tu as toujours cette ambiance. Et avec la musique là, que j'ai mis tout à l'heure, je peux peut-être essayer d'en remettre un.
Non, ça va, on comprend. Je crois que ce qu'il faut en fait, c'est simplement se faire sa propre idée, quoi, parce que
oui, mais c'est absolument pas quelque chose qui va faire violence à quelqu'un. C'est vraiment quelque chose qui va nous porter du début jusqu'à la fin. On va se laisser embarquer là-dedans. C'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder plusieurs fois parce que du coup, comme il n'y a pas forcément de parole, des fois on ne sait pas trop pourquoi les choses arrivent. Alors quand on sait que c'est une métaphore de la vie et que ça retrace toutes les étapes importantes, oui, on voit, mais il faut avoir ça en tête au moins.
D'accord. Voilà.
Et donc, au moins le spleen, non? À défaut d'une
personne. On veut absolument lui faire dire que ça. Ouais. Ah, le spleen, quand même,
peut-être,
d'accord.
Peut-être, Guillaume, oui.
T'en ressors pas en dansant, quoi.
Non, t'en ressors pas en dansant, mais apaisé, voilà. J'en suis vraiment ressorti très apaisé et j'avais qu'une seule envie, c'était de me passer la BO de tout de suite, quoi.
D'accord. Ok,
et
très
donc,
bien.
Je recommence pour tout le monde, sauf pour les petites filles de 3 ans et demi qui aiment bien les tortues.
D'accord. Très bien, eh bien, Guillaume, c'est à ton tour.
Est-ce que vous étiez bon en maths, messieurs, Patrick, Jean?
Excellent.
J'étais pas mauvais.
J'ai fait S.
On va dire pas mauvais, mais puis ensuite, j'étais plus très bon.
Et donc, Jean, t'as fait S, donc t'as été obligé d'aimer, de toute façon.
Non, moi, j'ai fait quoi? J'ai fait D.
D, c'est l'équivalent du ES, ça, non?
D, bon, c'était science tout court, genre maths, physique et bio.
Ah ben c'est ça, CS. Donc c'est on a fait le même.
D, c'est le Mathieu, tu sais, Guillaume.
Ouais,
c'est ça. Mais avant, à mon époque, c'était A, B,
de,
D
de
et C. Voilà. Je ne sais plus si c'était bac C ou bac S. Non, c'était S scientifique et D, c'était... B, c'était éco, A, c'était littéraire. C, il n'y avait pas C.
C'était scientifique, je crois.
c'était C. Si, ah peut-être que, oui Bac C, je m'en souviens plus. Mais moi c'était ouais, D, moi c'était moi
ça,
tu vois. Moi c'était un petit peu humaniste, tu vois, c'était toutes les sciences, tout est bien, il y avait pas que les maths et la physique dans la vie. Donc voilà, c'est on va dire ça. Continue, bon. Donne-nous ta recommandation, Guillaume.
Alors, ben justement, moi, j'ai toujours eu un rapport un peu particulier en maths. J'adorais ça. J'avais des super notes et puis je me suis pris une grosse gamelle au bac avec un coefficient de 11, du coup. Donc, j'en ai toujours un peu voulu aux maths après. Mais toujours est-il que je me suis replongé un petit peu d'un œil un peu extérieur sur les maths au travers d'une chaîne YouTube qui s'appelle MicMath, qui est animée par un monsieur qui s'appelle Michael Launay, qui rend les maths vraiment sympas. Si vous aimez pas les maths, si vous êtes allé allez voir ce monsieur, il va à mon avis très très rapidement vous montrer les éléments qui font que les maths sont rigolos et rigolotes et qu'il y a plein d'applications ludiques à y trouver, et y compris même pour les enfants, alors on va partir d'un certain âge quand même, mais allez jeter un coup d'œil à la chaîne, c'est vraiment captivant. Et du coup ce monsieur a lancé a écrit un bouquin. Et je me suis plongé dans le bouquin. Le titre exact, c'est « Le grand roman des maths de la préhistoire à nos jours ». Et il fait une espèce de rétrospective historique de l'humanité sous l'angle des mathématiques. Et je me suis fait complètement happer par la façon dont il présente les choses. J'ai carrément dévoré le bouquin. Il reprend tout depuis le début, du côté symétrique des biphases des hommes préhistoriques jusqu'à l'invention des nombres naturels, les différents théorèmes. Alors, les trucs qui vont peut-être donner des boutons à certains auditeurs, le théorème de Thalès, de Pythagore, comment c'est arrivé, etc. Et il met en scène tout ça sous deux angles, d'une part sous l'angle historique, donc on voit les innovations mathématiques, et il met ça aussi sous l'angle de ce que sont vraiment les maths. Alors c'est pas non plus philosophique, hein, ça reste très très accessible, mais jusqu'à la fin du livre, et puis pour le coup je peux me permettre pour une fois de raconter un petit peu la fin du livre.
Spoiler!
C'est un des premiers romans où je vais, de manière complètement décomplexée, dire la fin. Mais il arrive quand même à se poser la question, de manière très magique et très subtile, est-ce que les maths, c'est une invention de l'homme, ou est-ce que les maths existent en tant que telles et que l'homme ne fait que des découvertes dans l'univers des mathématiques? Et j'avoue que ça fait un peu tourner la tête, quoi.
C'est marrant, j'ai découvert il y a quelques jours à peine une chaîne qui s'appelle PBS Infinite, dont la deuxième ou troisième vidéo, c'est une chaîne YouTube, la deuxième ou troisième vidéo, c'est exactement cette question. Est-ce que les maths existent vraiment ou est-ce que c'est une invention ? C'était fascinant.
Mais ça fait, moi, ça me fait complètement tourner la tête, et il y a des choses qu'il explique dedans qui donnent le tournis. Et par exemple, un truc sans trop rentrer dans les détails, et vraiment, tapez-moi dessus si je rentre trop dans les détails, mais il existe un concept qui est les nombres imaginaires. Donc en gros, c'est des nombres par rapport à tout ce qu'on a appris dans notre cursus scolaire. Eh ben, on nous explique qu'il y a un truc qu'on nous a appris depuis toujours qui est pas forcément vrai. Et si on admet que c'est faux, eh ben, on en déduit plein de choses. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais à partir de là, on arrive à se rendre compte qu'il y a des champs qu'on découvre qui sont complètement insoupçonnés. Et ça, vraiment, ça donne à tourner la tête de savoir est-ce que les maths existent en tant que telles, ou est-ce que c'est une pure invention de l'homme, ou est-ce que les deux sont vrais. Enfin, voilà. Ça laisse vraiment songeur. Donc du coup, vraiment un bouquin qui se dévore. N'allez surtout pas croire que c'est un bouquin chiant. J'oserais même dire que je le recommanderais à tout le monde, presque sauf aux experts, parce que je pense que les vrais mathématiciens, les vraies personnes qui connaissent tous ces éléments-là vont peut-être s'ennuyer un peu, même si tout ça est très bien raconté et très ludique. Mais finalement, c'est une manière d'apporter les maths les personnes pour qui il y a éventuellement une aversion. On a tous entendu autour de nous quelqu'un qui dit « Ah, j'ai jamais rien compris aux maths, j'ai pas du tout la bosse des maths ». Et ben du coup, c'est peut-être un bouquin à leur recommander, parce qu'il y a une manière très 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 ludique de voir tout ça, et même d'y réfléchir et de faire participer tout le monde autour des mathématiques.
D'accord.
C'était petit reco qui sortira des autres typologies de reco peut-être habituelles.
Ouais, non mais ça a l'air effectivement assez intéressant. Je pense que ça pourrait plaire à pas mal d'auditeurs. Je pense que tu mettais dans les notes pour tous mais moins pour les fans. Bah je crois qu'on peut dire pour tous hein, les gens qui sont hyper spécialistes des maths, je pense qu'ils ont quand même assez l'habitude de voir des ouvrages de vulgarisation pour savoir à quoi s'attendre.
Oui. Et puis ils vont peut-être revoir les choses sous un aspect historique qui est quand même très très bien écrit. Hein. Encore une fois, c'est hyper compréhensible. Il n'y a pas de formule à comprendre dedans pour appréhender les mathématiques.
Très bien. Donc c'est ça s'appelle Le Grand Roman des Maths et c'est pour tout le monde. On a tranché. Merci beaucoup Guillaume et merci Jean. Je rappelle ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Il y avait Hip Hop Evolution, un documentaire Netflix plutôt pour les fans, La Tortue Rouge, un film d'animation pour tous et Le Grand Roman des Maths de Michael Launay pour tout le monde. On va se quitter donc maintenant pour clôturer ce troisième épisode de cette session. Mais avant ça, bien sûr, si vous voulez tenir les deux longues semaines qui nous séparent du prochain épisode, on va vous proposer d'aller voir ce que font nos co-animateurs quand ils ne sont pas dans Positron, à commencer par Jean. Allez, on change un peu.
Eh bien, moi, vous me retrouvez sur Papa Podcast. On vient de sortir hier, donc le 1er mars, le nouveau numéro de Papa à quoi tu joues. Donc, pour si jamais vous voulez garder un pied dans le jeu vidéo et que vous n'avez pas le temps de vous intéresser à tout, eh bien, on essaye de décortiquer ça sous un aspect plutôt traitement d'actu sociétal, ce que ne font pas forcément les autres médias. Et donc, on essaye d'aborder ça sous un regard un peu différent. Donc, sur Papa Podcast. .fr avec mes co-animateurs Arnaud et David.
Merci Jean, Guillaume.
Alors moi vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, vous tapez Guillaume Vendée, vous retrouverez mes différents comptes que je peux animer et au niveau des podcasts, je vais contrairement aux deux précédentes sessions il y a 15 jours et un mois vous recommander d'autres podcasts que, dans lesquels vous pouvez me retrouver, notamment Tech Café où on parle de la tech, de ses usages et dans ReLife qui est un podcast qu'on a relancé, il succède à NipLife qui était dans l'univers de Nipcast, donc ceux qui connaissent NipTech seront pas totalement en terrain inconnu, où on parle de life hacking, de bien-être, de développement personnel. On a relancé Nip Live depuis quelques numéros maintenant.
Très bien, merci beaucoup à toi. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous pouvez retrouver cette émission et bien d'autres encore, il n'y a pas de liaison là où il n'y a pas de S, bien d'autres encore, mais si, d'autres émissions, donc c'est un S, bien d'autres encore, j'avais raison la première fois.
Ouais, j'en mettrai.
Oui, oui, n'est-ce pas? Sur frenchspin.fr, des émissions comme le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu au hasard où on vous parle de tech et de jeux, mais oui, bravo, vous avez trouvé tout seul. Vous pouvez donc retrouver ça sur frenchspin.fr. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de notre session avec Jean et Guillaume. À très vite, ciao ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.